Alors, on va imaginer un train qui fait un trajet entre Paris et Clermont en passant par Nevers. Et donc, ce train passe par Nevers, comme on l'a dit. Un petit découpage rapide a été fait. On dit qu'il y a 400 km entre Paris et Clermont. C'est pas tout à fait juste, mais on n'est pas loin. Et que Nevers est à mi-distance, c'est pas du tout juste, mais c'est pratique pour nos calculs. Et donc, ce train doit parcourir le trajet en 4 heures, ce qui signifie que sa moyenne doit être 200 km/h. Et il parcourt 200 km entre Paris et Nevers, et ensuite 200 km entre Nevers et Clermont. Imaginons que maintenant ce train ait rencontré des difficultés dans la première partie de son trajet et qu'il n'ait roulé qu'à la vitesse moyenne de 80 km/h, c'est-à-dire que ça engendrait un retard de 30 minutes et que, eh bien, il lui reste plus qu'à 1h30 pour gagner Clermont dans les temps. Et si on fait le calcul, eh bien, on trouve qu'il faudra qu'il roule sur la deuxième partie du trajet à 133 km/h pour atteindre Clermont dans le délai prévu. Et puis, imaginons. Je pense que vous avez deviné. Une troisième possibilité, c'est que le train ait rencontré encore plus de difficultés, et puis que sur la première partie du trajet, il n'ait roulé qu'à la vitesse moyenne de 50 km/h. Et donc là, il a mis 4 heures pour aller à Nevers. À quelle vitesse doit-il rouler pour être à Clermont dans les délais? C'est un peu compliqué parce qu'il devrait déjà être à Clermont. Hein? Donc là, on est arrivé au terme du temps imparti. Le temps qu'il avait pour regagner Clermont n'est pas est dépassé. Le temps imparti est écoulé. Donc on aborde ici une notion mathématique qui est bien connue des mathématiciens, qui est la notion de limite. Tous les calculs sont valables jusqu'à cette limite, et au-delà de cette limite, on ne peut plus atteindre l'objectif qui était prévu. Au-delà donc de cette limite, il est trop tard. Si je vous dis, aussitôt, le coq chanta. Ça évoque quelque chose, je pense, pour vous. Hein, je parle bien sûr lorsque Pierre a renié Jésus, le coq a chanté. Et vous voyez tout de suite le lien qu'il y a avec l'illustration. Jésus avait donné du temps à Pierre pour lui témoigner son attachement. Et il lui avait même donné trois occasions donc pour cela, le soir où Jésus a été arrêté. Et avec en prime, Jésus avait prévenu Pierre qu'il le renierait trois fois. Trois occasions, trois échecs, et aussitôt le coq chanta. Le temps que Jésus avait donné à Pierre, le temps imparti, était écoulé, et le couperet était tombé. On ne peut pas rebobiner la cassette en arrière, hein, pour rejouer la scène à nouveau autrement. Ça, on ne peut pas le faire. On n'est pas dans un jeu vidéo où on peut revenir en arrière et puis se replacer dans la scène précédant le moment où on s'est fait tuer pour essayer de trouver une autre tactique pour mieux s'en sortir la fois suivante. L'évangile de Matthieu nous dit que Pierre sortit pour pleurer amèrement. Amèrement, hein, c'est fort. Comme support de notre réflexion ce matin, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 3, à partir du verset 1. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer, un temps pour haïr. Un temps pour la paix, pour la guerre et un temps pour la paix. Voilà, donc plein de situations qui sont données. Et on ne va pas bien sûr commenter cette liste avec chaque point un par un, qui est déjà très complète, mais qui n'est pas exhaustive. Hein. Toutes les situations de la vie peuvent y passer. Mais ce qui se dégage de ce passage, c'est que pour chacun de ces temps, il y a un début, il y a une fin. Avant le temps, il est trop tôt. Après le temps, il est trop tard. Le temps est une dimension qui détermine beaucoup de situations, qui entérine beaucoup de choses, qui entérine beaucoup de situations et qui configure de nombreuses destinées. Dans le système cartésien, on l'appelle la quatrième dimension. Les trois autres dimensions étant, vous le savez, la longueur, la largeur et la hauteur. Le temps est la quatrième dimension. Et fixer un rendez-vous avec quelqu'un en spécifiant bien le lieu précis, très précisément, avec un GPS à la seconde d'arc près, mais si vous ne vous dites pas quel jour à quelle heure, ça, il n'y a aucune chance de rencontrer la personne. Et le temps est peut-être moins palpable que les autres dimensions, la longueur, la largeur, la hauteur, que eux, on peut appréhender facilement en observant ce qui est autour de nous, les personnes, en contemplant les visages, les paysages, les bâtiments. Mais le temps est la dimension peut-être qui exerce le plus son diktat sur l'homme. L'homme peut agrandir sa maison, son jardin, son univers, son espace vital. Il parle aujourd'hui d'aller explorer Mars et même, je ne sais pas, qui sait, de la coloniser. Mais le temps, lui, n'est pas extensible. Et même si la durée de vie, on le sait, a augmenté considérablement, et il faut aussi signaler ce que ça implique. Ça veut dire aussi que l'homme a plus longtemps en main la possibilité de rencontrer son créateur au cours d'une vie qui est plus longue. Mais le temps imparti à chacune des occupations journalières est immuable. Les heures auront toujours 60 minutes, de 60 secondes, et nous avançons tous vers notre fin à la vitesse de 24 heures par jour. Lorsque le soleil se couche et clôt la journée, il a un effet direct, il sépare la liste des tâches que nous avons accomplies de celles que nous devons mettre au lendemain. Et quelqu'un a dit, et je trouve que c'est très vrai, « Je suis beaucoup moins stressé par le travail que je n'ai pas pu faire » je suis beaucoup moins stressé par le travail que j'ai fait que par celui que je n'ai pas pu faire. Le temps exerce sur nous son diktat, on a des échéances à respecter. Et alors, dans certains cas, le dépassement du temps imparti peut même marquer notre entrée dans l'illégalité. Un des exemples les plus évidents, c'est le paiement de l'impôt. Si le dernier jour, le dernier soir, à minuit, vous n'avez pas payé votre impôt, la seconde, avant vous êtes un honnête citoyen, mais la seconde qui suit cet instant, faites-vous un hors-la-loi. Et il en est de même aussi lorsque le temps de bénéficier d'un droit n'est pas encore arrivé. Vous avez passé votre permis de conduire aujourd'hui même avec succès, mais tant que vous n'êtes pas allé voir dans la boîte aux lettres et que vous n'avez pas reçu le papier rose qui vous dit que c'est un permis de conduire, vous n'êtes pas encore un conducteur à part entière. Nombre de choses sont légitimes en leur temps, mais perdent leur légitimité dès lors qu'elles ont cours en dehors du temps qui leur est imparti. Exemple ici, verset 3, un temps pour tuer, un temps pour guérir. Un temps de guerre disculpe l'homme de l'accusation de meurtre, et encore seulement dans des circonstances de combat. Verset 5, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Seul le temps du mariage donne une légitimité à l'intimité sexuelle du couple, mais cette chose qui est bonne et agréable à Dieu, tout le temps que dure le mariage devient péché dès lors qu'elle a cours en dehors de ce temps. Et par ces deux exemples, on a abordé d'une part les lois civiles, d'autre part les lois morales, mais d'autres relèvent aussi plutôt de la sagesse, le verset 8. Non, j'ai dû me tromper. Le verset 7, un temps pour se taire et un temps pour parler. Alors, je ne sais pas vous, mais celui-là, il me donne du mal. Comme je donnerais cher hein, pour maîtriser l'un et l'autre, hein, un temps pour se taire et un temps pour parler. Toute notre vie est marquée par ce temps qui passe et qui impose son diktat, des choses à réaliser pour une date limite. Et ça, bien sûr, c'est généralement en rapport avec les échéances que nous avons, avec, qui, nous ont imposé, qui sont imposées par notre employeur, notre propriétaire, notre banquier, notre fournisseur d'eau, de gaz, d'électricité, etc., toutes les administrations auxquelles on a affaire. Mais également, il y a des tâches que nous avons à accomplir et qui, a priori, ne présentent pas de date limite. Ou alors, on pense qu'on a du temps devant nous. Ou alors, plutôt peut-être qu'on a mal évalué le degré d'urgence. Et à ce titre, une petite anecdote, enfin qui est regrettable, mais qui illustre bien. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 1993, l'ancien Premier ministre Pierre Bérégovoy s'est donné la mort suite à une campagne de calomnie que la presse a montée en épingle, comme elle sait bien le faire, enfin les médias. Et donc cet homme, face à cette calomnie, s'est donné la mort. Et le président Mitterrand, interrogé après ce drame, parce que c'était son ami aussi, Pierre Bérégovoy avait été son premier ministre, mais il avait des relations aussi plus personnelles avec lui. Il avait rencontré cet homme quelques temps avant, et il ne l'avait trouvé pas bien. Il avait dit « il faudra que je lui téléphone un de ces jours ». Et puis, il a laissé passer le temps et il n'a pas téléphoné. Et alors, interrogé, très lucide, il a dit « quelquefois, on croit qu'on a du temps, mais en fait, on n'en a pas ». Est-ce qu'il aurait pu, par un coup de téléphone, sauver son ami ? Rien ne le dit, on n'en est pas sûr, hein. On ne peut pas le dire, mais on peut... Il aurait pu se rassurer peut-être en disant « de toute façon, si j'avais téléphoné, ça n'aurait rien changé ». Mais là n'est pas la question. Le chagrin, c'est une chose. Avoir perdu un être cher, ça, c'est le chagrin. Mais le regret vient de n'avoir rien tenté pour secourir son ami. Et le président Mitterrand était très lucide. Il ne pouvait pas s'épargner le chagrin. Mais il a eu entre les mains, pendant un temps, la possibilité, le moyen de s'épargner le regret. Et puis, le temps imparti était écoulé et le couperet est tombé. Quand quelqu'un lui disait, enfin quand on lui disait, parce que j'en faisais partie, un de mes chefs, « j'ai pas eu le temps », il répondait, « on trouve toujours du temps pour faire ce qu'on estime important ». Et ça, je trouve ça, après quoi, cette époque-là, ça me frustrait un peu quand j'entendais ça, hein, parce que, oui, mais c'est intéressant quand même. Hein. On trouve toujours du temps pour faire ce qu'on estime important. Ce qui signifie que selon ce principe, peut-être le temps serait finalement notre juge. Ce à quoi nous occupons nos journées serait le miroir de nos vraies valeurs. J'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps. Combien de fois on dit ça par jour ? J'ai pas eu le temps. Est-ce que c'est ça que nous dirons à Dieu quand il nous demandera des comptes ? Sur nos occupations quotidiennes. J'ai pas le temps. Combien de personnes opposent cette phrase au salut qu'il leur est apporté en Jésus-Christ ? Et peut-être pas seulement aujourd'hui, mais depuis des jours, des mois, des semaines, des années, j'ai pas le temps. C'est cela qu'ils diront à Dieu ? J'ai pas eu le temps ? On peut se trouver des excuses devant les autres et on peut même y croire soi-même. Mais tiendront-elles sous le regard de Dieu ? On dit que le manque de temps est un des maux de notre époque. À voir, hein, est-ce que Pierre, Jacques et Jean avaient du temps quand Jésus les a appelés pour le suivre ? Ils étaient pêcheurs. Ils passaient leur nuit sur un bateau à jeter le filet pour un salaire très maigre, la plupart du temps. Et je pense qu'ils guettaient chaque occasion pour partir sur le lac, pour essayer de gagner leur vie, celle de prendre soin de leur famille. Et Et pourtant, là, eux, ils ont suivi Jésus dans l'instant où ils ont été appelés. Est-ce qu'on peut se rappeler, alors ça peut être très différent d'une personne à l'autre, mais est-ce qu'on peut se rappeler des circonstances de notre conversion? Est-ce que c'était un moment où on était très calme, on avait le temps, où, tiens, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Ben, je vais réfléchir sur le salut que Dieu m'apporte. Non, je pense que la plupart du temps, c'est arrivé à un moment inattendu. Ça, je ne vais pas m'avancer pour chacun d'entre vous, mais... Moi, j'ai eu la chance d'assister à la conversion de ma chère épouse, ici présente, et je me souviens que lorsqu'elle s'est convertie, c'était une période pour elle, elle était en plein examen, elle était en train de passer ses partiels, maîtrise de droit, et les étudiants chrétiens avaient organisé une campagne d'évangélisation sur le campus. Elle est venue tous les soirs. Lorsque l'Esprit de Dieu travaille dans le cœur de quelqu'un, les autres choses passent à côté, et elle a quand même eu ses examens. Quand on réfléchit sur le sujet du temps et nos occupations journalières, on a souvent le réflexe de décomposer la journée. Déjà, 8 heures pour le travail, ça, c'est immuable. 7 heures pour le sommeil, ça va dépendre de chacun, mais bon, moyenne. 2 heures pour les repas, 1 heure pour la famille, 1 heure pour Dieu, etc. François de Sales a dit ceci. Chaque moment, François de Sales était un évêque catholique du XVIe siècle en Savoie. Chaque moment nous arrive, chargé de la volonté de Dieu, et va s'enfoncer dans l'éternité pour demeurer à jamais ce que nous en aurons fait. La première partie de cette phrase, chaque moment nous arrive, chargé de la volonté de Dieu. Ma journée au travail, je la passe sous le regard de Dieu. Je dors sous le regard de Dieu. Je mange et je bois sous le regard de Dieu. Je vis en famille, je me détends, je fais du sport, tout cela sous le regard de Dieu. Bien sûr, nous avons des interrogations sur notre avenir. Que ferai-je demain? Quelle sera la volonté de Dieu pour moi, pour ma famille, dans l'avenir? Quelle direction veut-il que je prenne dans l'avenir? Et ces questions, bien sûr, c'est normal qu'on se les pose, elles sont légitimes. L'homme a besoin de faire des projets. Ça fait partie des caractéristiques que Dieu lui a données, de faire des projets, la capacité de faire des projets. C'est une bonne chose de sonder la volonté de Dieu à l'égard de nos projets. Mais la volonté de Dieu, c'est aussi maintenant qu'elle commence. Quelle est la volonté de Dieu ? Alors que je suis là, maintenant, au travail. Quelle est la volonté de Dieu alors que je suis en famille? Quelle est la volonté de Dieu quand je conduis ma voiture? Quelle est la volonté de Dieu pour moi, là, maintenant? Et peut-être on serait surpris si on devait répondre à chacune de ces questions par la banalité des réponses que la Bible nous donne. Elle apporte des réponses très simples, très concrètes à toutes ces questions. Être un employé zélé et loyal, même si mon chef est difficile, et le servir comme si je servais Christ. Être un patron bon et juste, qui s'abstient de menaces. Aimer ma femme comme Christ a aimé l'Église. Élever mes enfants sans les irriter, pour ne pas les décourager. Alors, pour ce qui est de la voiture, je suis désolé. Je n'ai pas trouvé de conseil là-dessus, mais bon, je pense que c'est inutile de faire des recommandations, ça tombe un peu sous le sens. Honorer mon père et ma mère, hein, c'est dans ce passage que je viens de citer, qu'on trouve dans une des épîtres de Paul. On trouve aussi, voilà, honorer mon père et ma mère. Mon père, tiens, justement. Est-ce que c'est pas lui qui disait... Rien n'est plus important que le devoir d'État. Qu'est-ce que c'est que le devoir d'État, ce grand mot? Le devoir d'État. Alors mon père définissait le devoir d'État comme la somme des responsabilités que nous avons dans notre État. Parents, enfants, mariés, célibataires, employés, patrons, étudiants, chômeurs, retraités, tout peut y passer. Et en fait, c'est la somme, donc, la somme des responsabilités que tout homme a envers la société, et bien sûr, le croyant n'y déroge pas. Mais la dimension spirituelle qui lui est donnée en plus, c'est l'assurance qu'il accomplit ce devoir sous le regard de Dieu. Et non pas, bien sûr, un Dieu qui guette ses faux pas, hein, qui est prêt de voir quand est-ce qu'il va tomber, non. Un Dieu patient qui l'accompagne à chaque instant. Quelles sont dans nos vies les tâches que nous remettons à plus tard, alors qu'elles doivent avoir leur place dans leur emploi du temps prochain? Quelles sont celles aussi que nous négligeons, ce qui devrait avoir pour effet de nous interroger sur nos vraies valeurs? Quelles sont celles auxquelles nous devrions prêter un peu plus attention? Est-ce que nous avons bien évalué leur degré d'urgence et leur niveau de conséquence? Mais avant tout cela, qu'est-ce que Dieu attend de moi maintenant, aujourd'hui, dans l'instant? Qu'est-ce qui m'a été donné de voir, d'entendre, de percevoir, qui me rend responsable d'agir, de parler, de prier ou de me taire? On l'a dit, un temps pour parler, un temps pour se taire. Quelles sont les situations qui m'ont engagé, peut-être depuis fort longtemps, mais et qui ne me laisseraient que du regret si le couperet du temps imparti venait à tomber? Et malheureusement, notre état d'homme pécheur fait qu'il est probable que nous ne saurons pas toujours faire face aux échéances et que nous en éprouverons du regret, comme Pierre. Et Pierre, à juste titre, a regretté amèrement d'avoir renié son maître. Et il avait de quoi pleurer. Quelques jours avant, il s'était dressé tel un héros. « Tu ne mourras pas, plutôt mourir. » Enfin, je ne me souviens plus des paroles exactes, mais non, il ne renierait pas Jésus quand bien même il lui faudrait mourir. C'était le même Pierre. Mais Pierre a été lucide sur la nature de son péché, qui est bien sûr la lâcheté, et chose à laquelle il n'aurait jamais cru lui-même. Pierre en a beaucoup appris sur lui-même cette nuit-là, mais il s'est su pardonner. Et peut-être on peut penser que déjà dans le regard qui croise avec Jésus à cet instant-là, quand Jésus se retourne pour le regarder, peut-être qu'il lit déjà dans les yeux de Jésus le pardon au moment où après que le coq ait chanté. Un autre homme, Judas, a côtoyé Jésus aussi longtemps que Pierre et a eu aussi du temps pour régler son problème qui était en rapport avec la cupidité. Mais Jean nous dit qu'à l'instant où Jésus lui donna le morceau de pain, Satan entra dans Judas. Et on peut faire le parallèle, hein, cette courte phrase, Satan entra dans Judas, aussitôt le coq chanta, c'est dans les deux cas un événement soudain. Le temps imparti pour Judas, pour qu'il devienne un vrai disciple, était écoulé et il n'est plus tout à fait lui-même lorsqu'il disparaît dans cette triste nuit pour livrer Jésus. Mais Judas, lui, contrairement à Pierre, ne connaît pas le regret. Lui, il est pris par le remords. Et si l'un comme l'autre, le regret et le remords nous font douter de nous-mêmes, le remords a cette triste particularité de nous faire douter de Dieu. Dieu ne pourra pas me pardonner. Dieu ne pourra pas pardonner même ce péché-là. Le remords conduit au désespoir, tandis que le désespoir est à s'éloigner de Dieu, tandis que le regret conduit à la repentance et au pardon. Fort du pardon de Dieu, Pierre, on le sait, ça n'est pas écrit, mais Jésus l'avait prophétisé, Pierre a affronté le martyr quand son heure est venue. Comme Jésus l'avait annoncé, cette fois, il n'a plus compté sur ses propres forces, contrairement à la première fois. Quand son heure est venue, c'est ce que je viens de dire, Pierre a affronté le martyr quand son heure est venue. Voilà une expression encore courante dans la Bible et qu'on retrouve à de nombreuses reprises dans l'Évangile. On va aller passer maintenant dans l'Évangile de Jean, au chapitre 17, pardon. Et et au verset 1. Après avoir parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. » L'heure est venue pour Jésus. Jésus connaît à cet instant les souffrances que lui réservent les heures qui viennent. Mais il sait aussi que c'est pour ces heures-là que son Père l'a envoyé, pour ces heures-là, ni plus tôt, ni plus tard. Et c'est pour ces heures-là qu'il l'a envoyé accomplir sa volonté. Et pourtant, un peu plus tôt, les occasions n'ont pas manqué. Si on revient maintenant, qu'on tourne quelques pages en arrière et qu'on va au chapitre 7 et au verset 30, on a deux passages, on va lire d'abord Jean 7, 30. Donc là, on se trouve dans un contexte où Jésus a discuté de manière assez houleuse avec les pharisiens. La discussion a été tendue. Et là, il cherchait donc à se saisir de lui. Et personne n'a mis la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Tiens. Et Jean, chapitre 8, verset 20. Jésus dit ces paroles, donc même chose, il est aussi dans le conflit avec les pharisiens. Jésus dit ces paroles, enseignant dans le temple, au lieu où était le trésor, et personne ne le saisit, parce que son heure n'était pas encore venue. Jésus est là, en pleine explication, et eux n'en peuvent plus, ils veulent absolument se saisir de lui. Et moi je trouve la scène complètement surréaliste. Il est là, seul, sans défense, au milieu d'eux. Il peut être saisi à tout instant, et pourtant personne ne peut l'attraper, parce que son heure n'est pas encore venue. Et on a une autre scène comparable, dans l'évangile de Luc, au chapitre 4, versets 28 à 30. Alors, même chose, on est un peu dans un contexte comparable. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville, le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Alors, il n'est pas dit dans ce passage-là que, parce que son heure n'était pas encore venue, mais je pense qu'à la lumière des autres passages, l'esprit y est. C'est la même impression, en tout cas, qui s'en dégage. Ils ont réussi, cette fois, à l'attraper, à l'amener sur la montagne. Ils sont là, ils sont prêts à le jeter du précipice, et tout à coup, il s'en va, en passant au milieu d'eux. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que les disciples auraient fait former, comme on fait pour les chefs d'État, vous savez, quand les gardes du corps s'attroupent autour de lui pour le protéger de la foule? C'est pas dit, ici. On dirait qu'il a été protégé par peut-être des barrières invisibles dressées entre lui et eux. C'est l'impression que ça donne. Son heure n'était pas encore venue. Il y a matière à réfléchir là-dessus. Et Jésus aurait pu se dire dans ces instants-là, de toute façon, moi, je suis venu au milieu de mon peuple pour mourir sous ses coups. Alors, la croix, la lapidation ? Être précipité d'une montagne, une chute mortelle, qu'est-ce que ça change? Peu importe, finissons-en. Et je suis persuadé que là, Jésus a vécu une forme de tentative un peu sournoise de l'adversaire de le détourner du plan de Dieu. Jésus a été protégé de leurs mains jusqu'à Gethsémané. Et d'une manière qui nous échappe ici, mais qui semble bien réelle. Mais qu'est-ce qu'il en aurait été si Jésus avait désobéi à la volonté de son Père et si s'était livré de sa propre initiative dès cet instant, au lieu d'attendre le moment que Dieu avait choisi? Moi, je crois bien qu'il l'aurait précipité en bas de la montagne ou il l'aurait lapidé et que le salut ne serait pas d'actualité pour nous. Nous devons notre salut non seulement à l'obéissance de Jésus sur la croix, mais aussi à toutes ses obéissances tout au long de son parcours sur terre et au milieu des tentations du monde. Et parmi ses obéissances, celle de se conformer exactement à la volonté de son Père quant au jour et à l'heure de son sacrifice. Nous avons beaucoup insisté sur dans la première partie de ce message, sur la nécessité d'accomplir la volonté de Dieu maintenant, au moment où elle se présente. Alors, je ne veux pas, bien sûr, maintenant prêcher le contraire. Mais non, pas perdre de vue non plus que la volonté de Dieu, pour maintenant, ça peut être d'attendre que l'heure soit venue. Nous pouvons avoir des projets personnels, professionnels, familiaux, d'achat de voitures, de maisons, projet d'études, et projet aussi de servir le Seigneur, de telle ou telle manière. Et ça fait longtemps qu'on attend que l'occasion se présente, que le Seigneur monte la voie. Mais attendre que son heure soit venue pour réaliser ses projets est une chose essentielle. Et là, je dois confesser devant vous que avoir souffert et fait souffrir ma famille, ma femme, mes enfants, pour être parti trop tôt dans un projet immature, j'ai voulu voir au travers de circonstances la main de Dieu, mais Dieu, fort heureusement, a redressé le tir. Mais je peux dire que c'est une chose terrible de sortir, pour un chrétien, c'est une chose terrible que de sortir du plan de Dieu. Dans l'exemple du train que nous avions ici, merci, passez où. Imaginons maintenant que je veuille aller, je suis à Clermont et je veux aller à Paris. Puis je me présente à la gare, j'ai mon billet, je connais l'horaire du train qui part pour Paris, mais il y a un train qui part un peu plus tôt pour Nevers. Et c'est toujours bon, c'est la bonne direction, au moins ça m'avancera. Et je monte dans ce train. Le problème, c'est que peut-être ce train qui va vers Nevers, il ne va pas jusqu'à Paris. Et le côté ironique de la chose, c'est qu'une fois que je serai arrivé à Nevers, je vais voir passer le train qui va à Paris. Voilà. Avec Dieu, on attend généralement plus longtemps que ce qu'on croyait devoir attendre. Mais la réponse va au-delà de ce qu'on espérait. Petit passage dans Habacuc, qu'on ne va pas lire, je vois que l'heure tourne. Dans Habacuc, je lisais ceci cette semaine. Oui, la prophétie, ça concerne un point personnel. Habacuc a délivré une prophétie qui tarde à venir, mais Dieu lui dit, la prophétie s'accomplira. Attends, elle arrivera sûrement. Mais attends, même si c'est long, même si elle tarde. Et alors, là, je ne peux que, le croirez-vous, mais me réjouir de ce que j'avais choisi, le verset que nous ont cité François et Sylvie. Dieu peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Éphésiens 3:20. Dieu peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Si on savait d'avance le temps qu'il faudra attendre, est-ce que ce serait un avantage? Peut-être qu'on laisserait tomber tout de suite. Mais comme pour cela, comme pour le reste, nous avons les 24 heures qui sont devant nous. Si je dois faire la volonté de Dieu en restant dans l'attente, j'attends maintenant. Je ne sais pas encore si je devrais encore attendre demain. Si je dois faire la volonté de Dieu en parlant, je dois parler maintenant. Je ne sais pas si j'aurai encore l'occasion demain. Si je dois faire la volonté de Dieu en agissant, je ne sais pas si j'aurai plus de temps demain. Quelle est la volonté de Dieu pour moi maintenant? Et je vais de nouveau citer François de Sales. Pensons à bien faire aujourd'hui, et quand le jour de demain sera arrivé, il s'appellera aussi aujourd'hui. C'est humoristique hein, comme idée, mais quand demain sera arrivé, il s'appellera aussi aujourd'hui. Et alors nous y penserons. Mais je crois que le meilleur, pour terminer, c'est quand même de redonner la parole à la parole de Dieu et de retourner à l'Ecclésiaste au chapitre 9 et au verset 10. Ecclésiaste chapitre 9, verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Qu'est-ce qu'on peut donner de plus ouvert que ça? Quelle liberté, hein? Tout ce que ta main peut trouver avec ta force, fais-le. Liberté, mais aussi, au chapitre 12, responsabilité. Chapitre 12, verset 3. « Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années approchent où tu diras « Je n'y prends point de plaisir ». Nous sommes tous assez jeunes, ici, pour faire la volonté de Dieu aujourd'hui. La jeunesse, c'est maintenant. Amen.